Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Made in Germany.
Quand Peugeot a racheté Opel et que les emplois à Bochum qui ont voté à droite qui sont en danger, est-ce que vous avez fait des heures d'émission? Et quand Mercedes a décidé de faire la Smart en Lorraine parce que, et non pas en Allemagne, est-ce que vous avez décidé de dire c'est horrible, la Smart doit être construite en Allemagne, c'est des capitaux allemands, que les Allemands gardent leurs capitaux, qu'ils gardent leur travail, on ne veut pas construire la Smart en France, c'est dégueulasse ça, les capitaux allemands, est-ce que vous avez dit ça? Et il y a une autre chose, avec l'arrivée de Siemens, la cogestion allemande arrive en France. Vous savez, les syndicats, ils auront autre chose à dire à Alstom qu'ils n'ont en ce moment, parce que la cogestion allemande va beaucoup plus loin.
À la nouvelle qu'Alstom passait d'un actionnaire français de référence à un actionnaire allemand à 50%, Daniel Cohn-Bendit réagissait vivement sur notre antenne. Il citait l'exemple inverse. Peugeot et Opel, il aurait pu ajouter des achats importants effectués en Allemagne par les Français en 2016, Seb, LVMH, etc. Il ajoutait, via Siemens, Alstom va connaître la cogestion. L'un des caractères importants du modèle industriel allemand est en effet la cogestion. Il faudrait plutôt dire la codétermination par les partenaires sociaux, branche par branche, des dispositions relatives au temps de travail et au congé. La codétermination s'exporte-t-elle aussi bien que les capitaux ne s'internationalisent? Point d'interrogation. Un autre des caractères du modèle allemand était la banque-industrie, le financement prioritaire de l'industrie par les établissements de crédit, fédéraux ou nationaux. Cette spécificité s'est déjà effacée. Quant à la codétermination, revenons-y, elle peut à son tour être érodée à l'intérieur par la multiplication des petites structures, notamment dans l'économie nouvelle, à l'extérieur par la projection des établissements allemands à l'étranger. Les modèles industriels ne sont pas interchangeables. Celui de l'Allemagne est profondément enraciné dans une histoire longue. Cependant, le succès du Made in Germany ne résulte pas que de facteurs structurels. Il s'explique aussi aujourd'hui par des circonstances momentanées. La position géographique d'une Allemagne qui s'est déplacée vers l'Est et les règles de fabrication qu'elle s'imposait en ont fait un moment l'interlocutrice préférée de nombreux pays qui émergeaient. Cela durera-t-il? Les trains à grande vitesse que fabrique la Chine sont déjà d'une qualité presque aussi bonne que celle à laquelle s'engage Alstom Siemens et ils seront durablement moins chers.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Patrick Fridençon.
Bonjour.
C'est un plaisir de recevoir le grand historien à la fois du travail et de l'industrie qui a une expérience internationale de l'histoire de l'industrie parce que pour vos collaborations diverses à des travaux collectifs, votre revue Entreprise et Histoire, vous aimez beaucoup le comparatisme.
Le comparatisme, l'international et les circulations, mais aussi les dominations.
Le Japon retient beaucoup votre attention, dont le modèle souvent était cité comme exemplaire il y a de ça un bon moment.
Le Japon qui a des problèmes communs avec l'Allemagne, dont les problèmes de population.
De déclin démographique. Oui, mais enfin, le modèle allemand a beaucoup plus de succès en France que le modèle japonais qui n'a régné dans les esprits, dans les imaginaires, je devrais dire, que quelques lustres.
C'est vrai que l'Allemagne, c'est une référence pour le monde occidental, notamment depuis un célèbre livre écrit par un Anglais qui porte le titre que votre émission a repris, Made in Germany.
Mais alors, Made in Germany, juste une précision, ce sont les Anglais qui inventent ce label pour détourner la clientèle des îles britanniques,
non,
des produits qui sont faits,
non,
ailleurs qu'en Grande-Bretagne?
Non, ce livre, c'est un cri d'alarme sur le thème « Nous avons été la première nation industrielle, nous avons régné sur le monde avec près de nous la France, et voilà que nous avons un adversaire nouveau qui n'est pas notre neveu lointain que sont les États-Unis, c'est l'Allemagne. » Attention, faisons un sursaut, ce sursaut ne viendra pas et cela deviendra un label.
Mais alors le label, il naît quand? Le label Made in France, le label Made in Germany, naissent-ils ensemble d'ailleurs?
Ils ne naissent pas ensemble parce que le 19e siècle est encore un moment où il y a les derniers beaux feux de la langue française. Donc on devrait dire fabriqué en France. Mais ce label est la reprise et le détournement d'un cri d'alarme anglais.
Le cri d'alarme en France devant la concurrence allemande, on va commencer à l'entendre, si je me souviens bien, pendant les élections présidentielles de 1965. Et juste avant, cinq colonnes à la une, Georges Penchenier. Et voilà ce qu'il disait en 1961 de nos voisins. Il était partagé entre la sidération et une certaine admiration.
Il y a eu 1948, coup sur coup, deux événements qui ont servi de tremplin à l'Allemagne et l'ont tiré du malheur. La réforme monétaire, le plan Marshall. Du jour où la réforme monétaire a été réalisée, la confiance d'un seul coup est revenue et le mark a fait son apparition sur les cours mondiaux. Ceux qui entendirent sur un pauvre vieux poste radio rescapé de la guerre, l'appel du ministre des Finances Earhart le jour de la réforme monétaire, imaginez mal que 10 ans plus tard et dans un tout autre décor, il pourrait rêver au chemin parcouru. Un chemin, quel chemin, fait avec les pieds d'un monde du travail, un troupeau d'abord vêtu de haillons, misérable, et puis d'année en année, reprenant figure de civilisé et gagnant sa bataille. Car ils s'y sont tous mis, avec ce prodigieux sens du travail qui n'appartient peut-être qu'aux Allemands, cette patience inlassable et cette confiance. En quoi ? En Dieu ? En leur gouvernement ? En leur destin ? En eux-mêmes ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont même pas réfléchi. Ils se sont mis au travail comme des bêtes et ils ont continué. Et cela a donné tout ceci qu'on a appelé le miracle allemand et qui n'est que le résultat d'un long effort collectif.
Ça, c'est vrai. La référence à Earhart, le ministre qui va devenir chancelier plus tard, est exacte. Il y a des explications structurelles à la transformation allemande, Patrick Fridançon.
Il faut remonter pour ça au 19e siècle, tout en se disant que le 19e siècle est proche de nous. L'Allemagne, c'est le tard venu par rapport aux Anglais et aux Français. Elle a l'avantage du tard venu, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire toute une série de choses que les autres ont fait. Et elle se bâtit une industrie qui est fondée sur la science et la technologie, où son enseignement supérieur, ses universités, ses écoles techniques, ses écoles commerciales font merveille, et sur une ressource qui apparaît de plus en plus, c'est le charbon. Et du charbon, on peut faire de l'énergie, on peut faire de la chimie, et c'est cette application de la science et de la technologie sur le charbon qui va donner les bases de l'Allemagne. Mais il va s'y rajouter très rapidement d'autres choses. La banque, vous l'avez dit, tout ce qu'on appelle ces banques universelles qui font du mélange court terme, long terme, et qui parrainent et soutiennent l'industrie. Il y a aussi la volonté de créer des normes qui apparaît dans la mécanique, dans la métallurgie, mais qui est appuyée sur de puissantes associations d'ingénieurs. Et il y a aussi des ingénieurs qui essayent de rationaliser le fait de trouver des nouveaux produits, des nouveaux processus. C'est ce qu'on sait autour de Rademacher, ce qu'on appelle la conception réglée. Donc, vous voyez, c'est une conversion industrielle qui est extrêmement forte, avec aussi l'internalisation des laboratoires à partir de la chimie. Et le politique et le social qui s'y mettent.
Alors le politique et le social qui s'y mettent. On dit qu'il y a une partie des dirigeants patronaux qui sont occupés à s'auto-imposer des règles, celles dont vous parliez, et qu'il y a une autre partie qui s'est spécialisée dans la négociation, dans un cadre, comment dire, corporatiste. On a du mal à comprendre ça en France, où les corporations ont été abolies par la Révolution française. Les corporations continue d'une certaine manière en Allemagne, branche industrielle par branche industrielle.
En Allemagne, effectivement, il y a cette conception de rassemblement. Alors, il y a une conception industrielle, ce sont les cartels. Et les Allemands, dans cette époque, n'aiment tant la concurrence que quand elle est comme la conception réglée par l'entente mutuelle. Ce sont les Américains, dans les années 50, qui imposeront aux Allemands de l'Ouest l'abandon des cartels, du moins l'abandon officiel. Mais vous avez Bismarck, qui, face à la montée du syndicalisme et du socialisme, crée dans les années 1889-1890 le plus bel ensemble de protection sociale. Et donc cette Allemagne, elle est industrielle, mais elle cherche aussi, en partie pour les détourner du socialisme, à protéger ses ouvriers. Et de ce point de vue-là, elle est à l'avant-garde. Et les patrons, une bonne partie d'entre eux, estiment que l'État ne doit pas se mêler de leurs affaires, sauf pour les protéger, mais là, ils ne sont pas seuls. Mais il y a donc, en 1918, après la défaite de l'Allemagne, une grande réunion entre les syndicats et les patrons allemands, d'où vont sortir beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui, sur le thème, c'est la négociation directe, aux besoins précédés par des conflits, qui doit être la norme, et ça ne doit pas être l'État qui fixe les règles, sauf les grandes règles auxquelles on ne peut pas faire.
Donc nous, on pense parfois que c'est une social-démocratie redistributive. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Peu d'intervention de l'État, le moins de redistribution possible, l'ordre budgétaire doit être gardé, et la négociation, on appelle ça l'ordolibéralisme.
Alors, tout ceci est très lié aux expériences désastreuses qu'ont fait les Allemands dans les années 20, avec une inflation gigantesque. Vous savez, les billets de banque ou les timbres-poste à plusieurs milliards. Et de ce point de vue-là, cette expérience qu'on va appeler ensuite le capitalisme rhénan, c'est la synthèse d'une série de moments de fond que j'ai décrits, qui sont à vrai dire fort peu socialiste, et puis de moments épouvantables dont les Allemands émergent avec, du coup, un souci du long terme et un souci de protéger les acteurs de ce que vous allez appeler le miracle.
Et la liberté de chacun des acteurs, Angela Merkel dit l'économie sociale de marché, qui est au fond un autre capitalisme que celui qu'on connaît dans le monde anglo-saxon, doit permettre à l'individu d'aller où il peut aller sans être entravé. À un moment, en France, on a eu beaucoup d'intérêt pour les livres de Michel Albert, qui est mort en 2015 dans la plus grande indifférence, sur le capitalisme rhénan, un autre capitalisme que celui qu'on connaissait dominant ici.
Oui, parce que notre capitalisme à nous était un capitalisme fondé sur l'usage de la bourse, sur les grandes écoles, et donc sur l'interchangeabilité des préoccupations, soit de nos financiers, soit d'une partie de nos patrons. Et là, l'ordolibéralisme dont vous avez parlé, c'était une doctrine qui justifiait l'idée qu'il pouvait y avoir un marché comme aux États-Unis, mais un marché plus social. Mais derrière, il y avait l'idée que les 150 années écoulées devaient créer les bases d'une Allemagne solide à l'intérieur et conquérante à l'extérieur.
Exportatrice.
Und hier der Opel Corsa Edition 111 Jahre. Deutsche Ingenieurskunst. Multifunktionslenkrad aus Leder. Deutsche Qualität. Bordcomputer, Klimaanlage, CD-MP3-Radio und der Geschwindigkeitsregler für die Sicherheit der französischen Autofahrer. Deutsche Zuverlässigkeit.
Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que cette Opel est une vraie voiture allemande. Opel.
Pas besoin de parler allemand pour acheter allemand. Alors, qu'est-ce qui explique l'exportation allemande et ses succès?
D'abord l'audace. Volkswagen s'implante en Chine en 1989. Citez-moi un constructeur américain qui ait eu l'idée d'aller en Chine durement, durablement, 13 ans seulement après la mort de Mao. Une conception du commerce très forte dans l'entre-deux-guerres, c'est les commerçants allemands qui circulent dans toute l'Afrique, et donc une volonté tout à fait carrée. Aussi la formation professionnelle, c'est-à-dire le fait que une partie de la main-d'œuvre qualifiée est formée en alternance entre l'éducation et le travail. Mais la dernière élément que je veux indiquer, c'est le fait que les gens font carrière dans l'immense majorité dans leur entreprise, et leur entreprise devient une sorte de trésor et il y a une adhésion. Cette adhésion peut être conflictuelle, mais on ne va pas migrer d'un land à l'autre, d'une entreprise à l'autre.
Alors, on va passer un petit peu de rock industriel, Patrick Fridançon. Je vous laisse prononcer le nom du groupe qui vient de Berlin, qui a commencé à sévir dans les années 1980, qui fait intervenir des foreuses, des meuleuses au milieu de ses morceaux. Vous diriez comment, là?
Alors, ce groupe, il s'appelle Einstürzende Neubauten.
Mais ça, c'est vous qui le prononcez. Hein.
Einstürzende Neubauten.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Das ist eine Renault-Mégane.
Fier coup de voiture.
Mit ein Motor DCI de 110 chevaux. Und motorisation Eco 2. Un taux de rejet de CO2 de 110 grammes. Das ist moins d'impact sur l'environnement. Die coffre. 405 litres.
Sehr spacieux.
Mais aussi une boîte automatique à double embrayage EDC. Ein son.
Bose.
Avec ein CD radio MP3. Avec ein
commande au volant. Ja, ich bin Meloman.
Ach ja,
Carmina Tom Tom live aussi, jamais perdu, nein, jamais.
Sécurité, 5 étoiles Euro NCAP. Grosse bonne note.
Ich bin in Berlin. Berlin Renault Mégane.
Renault, la qualité, version française.
Ja, ja, ja. Vous voulez dire un mot sur Renault d'abord?
Cette publicité Renault, elle signale quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. En 1986, Renault était au fond du gouffre et l'était en Allemagne. Et la qualité française, ça faisait doucement rigoler. Et c'est un homme, Luc-Alexandre Ménard, qui de 86 à 89 a remonté Renault, mais pas seulement le commercial, mais aussi a dit quelles étaient les réactions des Allemands par rapport au modèle, et qui ensuite... s'est lancé tout seul en Allemagne de l'Est, après la chute du mur. D'où un livre paru chez un petit éditeur, mais que je veux signaler, Luc-Alexandre Ménard, L'impossible conquête, Renault en Allemagne, 1986-1993. Et d'autant plus que peu après avoir écrit ce livre, il est mort.
Alors donc, vive Renault. Je voulais signaler un livre dont le premier tome est paru il y a très très longtemps, sous votre signature, Patrick Fridançon, une histoire des usines Renault. On attend la suite avec impatience. Si on se livrait dans cette deuxième partie d'une émission qui a commencé sous le titre Made in Germany à un Germany bashing, si on défendait non seulement Renault, non seulement les entreprises françaises, mais si on essayait de faire l'inventaire des faiblesses qui vont peut-être se révéler dans le modèle industriel allemand.
Il y en a toute une série qui sont apparues au fur et à mesure. La première, c'est la corruption. Voilà Siemens dont on parle pour Alstom. Siemens a été une entreprise notoire pour sa corruption et ça a fait sauter l'état-major. Elle a demandé à un grand historien allemand d'en faire l'histoire. Il a fait cette histoire et au dernier moment, les juristes de l'entreprise ont refusé la publication du manuscrit.
Et puis on pense à ce qui s'est passé autour de Volkswagen, pas seulement à la manière dont Volkswagen essaye d'éviter les règles environnementales qu'elle dit s'imposer, mais aussi à ce scandale de 2005. Parce que la co-gestion, la co-détermination, c'est bien, mais on peut aussi corrompre les syndicalistes qui appartiennent au comité d'entreprise en leur offrant des voyages priapiques.
On peut leur offrir effectivement des voyages tout à fait extraordinaires et on peut leur offrir une deuxième vie privée, tout ça aux frais de l'entreprise. Donc il y a les banques allemandes, et notamment la première d'entre elles, la Deutsche Bank, souffre très gravement.
Donc la banque industrie, c'est un peu fini. Le financement par la Banque Nationale ou la Banque des Länder, c'est
ça
fini.
Ça n'est pas complètement fini, mais il y a des moments, les banques allemandes, les caisses d'épargne, souffrent abondamment. Le système de formation en alternance a lui aussi des difficultés.
Alors pourquoi? Parce que Édouard Philippe vient de tresser de nouveau des louanges à l'apprentissage à l'allemande. Mais à partir du moment où les travaux deviennent de plus en plus techniques, où les usines de sidérurgie n'ont plus d'ouvriers qu'en costume-cravate, est-ce que l'apprentissage a toujours les mêmes vertus qu'avant?
Ben, ça n'est pas l'apprentissage qui donnera à l'Allemagne ce qui lui manque, c'est-à-dire un Facebook, un Google, un Microsoft. Alors certes, l'Allemagne est capable de se reconvertir, et Mannesmann, grande firme de la sidérurgie, ça donne TUI, qui est une des dernières grandes agences de voyage internationales et qui a racheté Cook parmi d'autres. Mais l'Allemagne fait de la souplesse et de l'agilité. Elle a toutes ces merveilleuses entreprises moyennes qui font défaut à la France. Mais pour autant, il y a une série des fondamentaux du miracle allemand qui sont en grande difficulté, et je n'en prends qu'un, les universités. Pourquoi Schröder, en même temps qu'il faisait les réformes du travail qui anticipent d'une certaine manière celles que la France est en train de vivre, pourquoi Schröder a-t-il fait en même temps ce qu'on a appelé les initiatives d'excellence allemande? C'est parce que les universités allemandes, pourtant modèles internationaux, avait de graves problèmes d'ajustement à une compétition mondiale où ils ne sont plus seulement la référence, mais où la référence, c'est non seulement les Américains, mais c'est les Chinois, et ce sera peut-être bientôt les Indiens. Gastarbeiter, oh man, oh man, oh man, Gastarbeiter, für den Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man, wir sind schuld daran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Gastarbeiter.
En turc, on nous appelait les travailleurs. On croyait qu'on était des bras, mais ce ne sont pas des bras qui sont venus. Ce sont des hommes qui sont venus. On ne sait pas, en France, que les difficultés des enfants d'immigrés sont peut-être plus grandes encore en Allemagne que chez nous, dans le système éducatif.
Alors, c'est vrai pour les Turcs à l'ouest, et c'était vrai à l'est pour les Vietnamiens. Et donc on a à la fois ces difficultés considérables sur les Turcs qui ont fait une partie du miracle allemand, et on a l'intégration des cinq Länder de l'Est qui, au bout de 27 ans, n'est toujours pas complète. On a une Allemagne qui s'est reconvertie, et on a une autre qui peine. Et même quand elle ne peine pas, prenez la ville de Dresde. Dresde, il y a maintenant une usine complètement automatique d'automobiles. Mais qui est-ce qui fera la voiture automatique, la voiture connectée? Ce sera très probablement une firme américaine ou une firme chinoise si les Allemands ne se mettent pas à coopérer avec le monde.
Mais donc, prenez Leipzig et la Saxe qui sont très mis en avant au moment de la campagne électorale qui vient de s'achever en Allemagne. Alors là, on nous dit que rien ne valait plus rien de l'industrie ancienne de Leipzig, qu'on a tout rasé et qu'on a fait du greenfield, et que Porsche, BMW, de la logistique, du numérique se sont installés. Partir de rien, c'est ce que vous disiez à propos de 1945, peut être un avantage.
Oui, c'est vrai, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire que au fond, la période soviétique, ça a laissé pourrir toute une série de qualités allemandes, et les reconstituer, ça n'est pas si facile que ça. Mais le défi d'aujourd'hui, c'est de remettre à plat toutes ces qualités, Il lui reste la technologie, il lui reste la science, il lui reste la main-d'œuvre très qualifiée, mais la main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée, mais les chômeurs, mais les petits boulots, est-ce que l'Allemagne peut les intégrer et est-ce qu'elle peut refaire un partage de la décision comme celui qui régnait avant les escapades que vous avez rappelées?
Il lui reste la France, Patrick Fridançon, à la Sorbonne. L'autre jour, le président Macron, presque à l'issue de son intervention d'1h30, a fait un certain nombre de propositions qu'il disait concrètes en direction de l'Allemagne de la chancelière à peine réélue.
Après les élections chez notre principal partenaire, je veux féliciter à nouveau la chancelière Angela Merkel. Et je sais son engagement européen. Je sais aussi pour elle la blessure de voir des discours nationalistes et haineux avoir emporté tant de suffrages. Mais je sais que sa réponse ne sera ni le repli, ni la timidité. Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous pouvons donner une impulsion franco-allemande décisive et concrète. Pourquoi ne pas se donner, d'ici à 2024, d'intégrer totalement nos marchés en appliquant les mêmes règles à nos entreprises ? Du droit des affaires au droit des faillites.
Alors ça vous embouche un coin, Patrick Fridançon, sur les mêmes règles à nos entreprises.
Ça m'embouche un coin parce que le marché commun, créé en 1957, avait cet objectif et on voit bien qu'il n'y est pas encore arrivé. Ceci étant, la question chinoise est pour l'Allemagne un enjeu terrible et ils ont pris des dispositions protectrices et une des logiques de la France aujourd'hui, c'est bien de se rapprocher face aux Chinois.
Alors on peut prendre l'exemple d'Alstom Siemens. Le TGV chinois a beaucoup de qualité.
C'est exactement ce que je veux dire, mais les historiens n'ont pas froid aux yeux, ils ont beaucoup de mal à penser que le verbe d'un chef d'État et d'une chancelière, ça peut accélérer des évolutions aussi fortes avec deux systèmes sociaux, deux systèmes économiques, deux systèmes éducatifs qui se sont certes rapprochés, mais qui ont encore des distances. Alors, le droit peut être un moyen d'avancer, mais ce que on nous propose là, c'est ce que les Chinois avaient appelé, dans une époque antérieure, un bond en avant. Le bond en avant en question, c'était un peu cassé la figure. Ce qui est extrêmement vrai, c'est que il y a davantage de coopération franco-allemande au plan industriel, et pas seulement celle dont je parlais à propos d'Airbus. Mais il y a aussi des différences majeures. Est-ce que l'ancien patron d'Alstom et l'ancien ministre du redressement productif...
Vous avez donné des noms, donnez des noms.
Arnaud Montebourg pour le ministre et Patrick Cron vont rendre publiques les archives des anciennes tentatives de rapport entre Siemens et Alstom, sur lesquelles on a vu qu'ils disent exactement le contraire l'un de l'autre.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Montebourg dit une nationalisation aurait été possible, serait possible encore.
C'est ce qu'il dit, mais il dit aussi que il a bien fait d'écarter des propositions allemandes, et Patrick Cron dit au contraire qu'il a eu le souci de l'intérêt national. Eh bien, que les historiens, que les journalistes aient les pièces du dossier, ce serait assez intéressant.
Merci à vous, Patrick Fridançon. Cette émission était préparée par Léa Polverini, avec à la réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Élise Christophe, sur notre site, les références vous concernant, et notamment celles concernant la revue Entreprises et Histoire, dont le dernier numéro est consacré aux entreprises et aux changements climatiques.